Bonjour, la classe de 3e 3 du collège Jules Vallès est allée visiter la source, l'école de musique et la salle de spectacle de Fontaine.
Nous avons rencontré les membres du collectif Maoël, Pascal, Mourad, Michel, Géraldine et Khaled qui se préparaient pour le spectacle du soir.
Nous avons pu interviewer Arnaud Dula, médiateur et chargé de relations publiques à la source.
Cette visite nous a permis de découvrir cette salle de spectacle et comment les architectes ont conçu ce bâtiment.
Nous avons aussi découvert que la source est un lieu de pratique et d'apprentissage de la musique, ainsi qu'un lieu de représentation.
Nous avons beaucoup apprécié cette visite et ce moment passé avec les artistes.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à La Source. Alors La Source en fait c'est un bâtiment municipal, c'est un bâtiment qui est géré par la municipalité, c'est-à-dire la mairie de Fontaine. C'est un bâtiment qui a la particularité en fait d'être une salle de spectacle, ou plus exactement une salle avec trois salles de spectacle et une école de musique à l'intérieur. C'est un peu ça la particularité. La plupart des salles de spectacle qui existent sur l'agglomération grenobloise et même globalement sur la région Rhône-Alpes ne sont dévolues qu'aux pratiques musique actuelle ou à la danse ou au théâtre. En tout cas des pratiques artistiques, mais il n'y a pas, à ma connaissance, de structure où il y a une école de musique. Ici, c'est le cas. C'est un peu la particularité. Ce bâtiment, en fait, a été construit il y a maintenant 10 ans. C'est un projet qui a plutôt 15 ans. Ça fait même 20 ans que c'est dans les cartons, 15 ans pour sa mise en place, 10 ans l'ouverture du bâtiment. L'idée de la ville, c'était de pouvoir permettre à l'ensemble des usagers de l'école de musique de pouvoir être en proximité directe avec des pratiques artistiques, en l'occurrence musicales, puisque c'est un peu aussi la spécificité de la source, c'est qu'ici nous ne faisons que des concerts de musique. Ça peut aller de la musique classique jusqu'au hard rock, mais on ne fait pas d'autres esthétiques de type théâtre, conte, comme ça peut par exemple exister à l'Iliade. L'architecture de ce bâtiment, vous pouvez constater au niveau visuel, que vous avez des petits carreaux biseautés, voilà, tout au long du mur. En fait, ces carreaux-là ne sont pas simplement de la décoration, c'est une œuvre artistique. Il faut savoir que dans un bâtiment, lorsqu'on construit, on peut mettre 1% du montant total du coût du bâtiment pour une œuvre. Et ça a été le cas, le choix en tout cas de Fontaine, d'utiliser cette possibilité pour faire une commande à David Bueno, de faire ces fameux carreaux biseautés. Et cette œuvre, en fait, a la particularité, le 21 juin, au moment du solstice, le soleil a un angle particulier qui se réverbère sur ces carreaux et qui font en fait des arcs-en-ciel sur le sol. Donc, globalement, ça commence le 10, hein, mais si vous venez le 21 juin, c'est ce moment-là où il y a le plus arcs-en-ciel de partout dans le bâtiment. Vous pouvez aussi constater qu'au niveau d'architecture, on est sur une partie béton, sur la première surface de la source, c'est du béton. Et ce que vous voyez comme revêtement métallique, en fait, ce n'est que de la décoration. Vous verrez lors de la visite qu'en réalité, la source a une base béton et tout le reste est en bois. Les fameux troncs que vous voyez là, c'est pareil, c'est pas de la décoration, c'est vraiment des supports qui tiennent l'ensemble du bâtiment. S'il y a du bois, c'est parce que dans la conception, on a voulu, enfin les élus comme l'architecte, ont voulu faire un bâtiment, ce qu'on appelle HQE, haute qualité environnementale, c'est-à-dire essayer au maximum d'avoir un bâtiment qui consomme peu d'énergie électrique pour son fonctionnement. Je vous propose de commencer un peu la visite. Donc ce qui est bien à la source, c'est que vous allez voir, en fait, tout est un petit peu rassemblé. Vous voyez, vous avez fait un mètre et là, tout de suite, j'ai plein de choses à vous raconter. Vous allez voir, je suis très bavard en plus comme garçon. Vous avez juste derrière cette vitre, en fait, un poste. C'est un opérateur studio, c'est-à-dire que c'est Maël. Maël a, en fait, la coordination et la gestion des lieux de répétition. Il faut savoir que dans la source, il y a aussi les salles de spectacle, il y a aussi l'école de musique, mais il y a aussi des lieux de répétition pour permettre à des jeunes qui veulent faire un groupe et commencer à monter leur set, de pouvoir avoir des lieux équipés, on va les visiter. Vous avez tout de suite l'auditorium, qui est une salle de 120 places. On terminera la visite par ce lieu-là. Et enfin, en faisant à peine 2 mètres, vous avez l'accueil. Et à l'accueil, vous avez Samia, Samia, dont le rôle, en fait, est d'informer, de conseiller, d'orienter et de gérer tout ce qui est ce qu'on appelle la régie, c'est-à-dire la billetterie. Donc c'est un peu la maîtresse du coffre au fort. Et puis évidemment, derrière vous, vous avez l'ensemble de la programmation. On est en fin d'année, donc il n'y a plus beaucoup d'affiches. Mais si vous venez en début d'année, il y a l'ensemble du mur qui est couvert par les affiches qui sont ni plus ni moins que les artistes qui vont ou qui ont joué à la source. Vous avez ensuite Lou qui est donc la secrétaire de l'école de musique, dont son rôle est l'accueil, la formation, l'inscription de l'école de musique. Donc là aussi, si vous êtes un usager de la rive gauche et que vous souhaitez rentrer dans un cursus scolaire, ou en tout cas un cursus d'apprentissage de la musique, Lou est votre référente, en tout cas votre premier contact, pour vous informer de tout ce qui est tarification, etc., etc. Donc comme vous le voyez, la source est aussi un lieu de vie. On a un bar qui est ouvert les soirs de spectacle et aussi les mercredis après-midi, et qui permet aux usagers, aux gens, de pouvoir venir boire un petit coup pendant les concerts et ou de manger. Voilà, c'est un petit coin restauration qui est géré par une société qui s'appelle Paisa. Nous rentrons actuellement dans l'école de musique. L'école de musique, bien évidemment, on apprend le solfège, la guitare, la batterie, le violon, le violoncelle, le saxophone, la percussion, enfin bref, la plupart des instruments. Ici, on est typiquement dans une classe de solfège, ce qu'il y a de plus rébarbatif au début, mais qui est malheureusement nécessaire pour pouvoir ensuite progresser rapidement. Vous avez pu constater que cette pièce a des décorations un peu particulières. Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous les voyez d'abord? Ouais. Les murs, effectivement. En fait, tout ce que vous voyez derrière, c'est-à-dire le tissu qui est derrière le mur là-bas, c'est pas que décoratif, c'est en fait un traitement acoustique. Pareil, les panneaux que vous voyez ici, sont des panneaux qui traitent le son, qui traitent en fait la réverbération du son. Ça permet, lorsqu'un professeur fait son cours et aux élèves, de ne pas se retrouver dans une résonance trop importante, puisqu'il y a parfois aussi ici des pratiques d'instruments.
La source, c'était une ancienne usine de yaourt.
Ah, non.
De confiture.
Oui. Vous avez l'exemple typique de la source. La source, donc, c'est une structure béton qui est ici. Moi, je l'appelle béton, je ne devrais pas. L'architecte appelle ça un support minéral. Et autrement, tout le reste du bâtiment, comme vous pouvez le voir, c'est du placo, tout simplement, ce qui a permis l'aménagement des espaces de façon plus simple. On va sortir de l'école de musique. Est-ce que vous remarquez quelque chose?
On remarque qu'il n'y a plus de mur acoustique.
Ouais.
Et ça fait écho après.
Ouais. Alors ici, vous êtes typiquement, on quitte la zone école de musique pour entrer plus dans la zone musique actuelle, studio, etc. En fait, une des particularités du bâtiment, c'est qu'au niveau de l'architecture, au départ, pour pouvoir vite se retrouver, eh bien, en fait, il y a un truc très très simple, c'est le sol. Tout ce qui est en gris, tout ce qui était en sol gris, c'était l'école de musique. Tout ce qui est en sol rouge, c'est tout ce qui est enseignement musique actuelle, pardon. Cette partie-là, en fait, c'est la partie qu'on pourrait appeler la partie jeune. Allez, on va l'appeler comme ça, en fait, c'est la partie des jeunes musiciens. On a vu l'école de musique, typiquement, l'idée de ce bâtiment, c'était d'imaginer qu'un jeune puisse aller à l'école de musique, apprendre à jouer de son instrument, une fois qu'il a appris à jouer de son instrument, de pouvoir le pratiquer de façon autonome. Donc pour le pratiquer de façon autonome, il y a plusieurs outils qui ont été mis en place, dont les locaux de répétition. Alors je vous en prie, rentrez.
J'aime trop les batteries.
Les batteries, pardon.
Alors écoutez bien. Ce son-là, c'est tout simplement qu'on est dans un lieu complètement hermétique. Ce qui permet très concrètement, lorsqu'un groupe de musique qui fait du rock ici, par exemple, à l'extérieur, on n'entend absolument pas plus que dans la salle, pas plus que... Donc, la source fonctionne globalement sur les studios 6 jours sur 7. Et les studios fonctionnent, peu importe qu'il y ait des concerts ou pas dans l'établissement, les studios, les locaux de répétition fonctionnent constamment. Est-ce que vous avez des questions ?
Oui. C'est quoi ça là-haut ? Là-haut, là au milieu.
C'est un micro.
Ouais, intéressant. Vous avez un panneau qui est derrière, qui actuellement ne marche pas puisque le studio ne fonctionne pas actuellement. Mais dès que les amplis sont en marche, ce panneau s'affiche et donne le nombre de décibels. On sensibilise les musiciens, les jeunes musiciens, à ne jamais dépasser 95, voire 98 décibels lors de leur répète. En fait, il faut savoir que votre téléphone, votre appareil Apple ou autre, etc., est bridé à 90 dB. On ne peut pas aller au-delà. On pourrait se dire que, comme la législation, enfin comme les gens disent qu'au-delà de 95, 100 dB, ça devient dangereux, 90 c'est bien. En réalité, 90 décibels, 2 heures, c'est ce que votre oreille peut encaisser en une semaine. C'est-à-dire que tout à chacun, lorsqu'on écoute notre musique avec notre lecteur sur le volume à 70, 80 ou 90%, vous l'écoutez une journée, normalement vous devriez poser votre appareil et limiter au maximum les agressions dites sonores. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en réalité, votre oreille, vous ne devenez pas sourd du jour au lendemain. Votre oreille, elle a un patrimoine, une quantité de résistance qui, à chaque fois, on grève petit à petit l'oreille jusqu'au moment où on devient sourd. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de poser le soir, vous avez fait la fête ou peu importe, arrivé un soir de poser la tête sur votre oreiller et d'entendre votre oreille faire pi.
Les acouphènes.
Vous savez, ce fameux phénomène. Alors les acouphènes, c'est un phénomène qui est continu. C'est autre chose. Mais ce petit pi, ça veut dire que vous avez déjà votre oreille. Il y a le tympan qui réceptionne les vibrations et des petits cils qui s'agitent dans votre oreille et qui transmettent au cerveau transforme en fait l'information à votre cerveau pour dire c'est des basses, des aigus, des graves, du chant, etc. C'est ce qui fait qu'on finalement on entend du son. Mais quand vous entendez ce fameux bi, c'est que votre cil, il a été un peu plié. Et un cil qui a été un peu plié, c'est un peu comme une mèche, vous savez, de cheveux rebelles. Vous avez beau essayer de mettre du gel, elle revient toujours. Quoi. C'est la même chose. L'acouphène que tu évoquais, c'est-à-dire le son que tu as en continu, c'est exactement le même phénomène, sauf que le cil, lui, il s'est cassé. Le phénomène du cil qui est plié, une fois qu'il est plié, c'est à vie, il ne se redresse pas. Et c'est pour cela que je vous dis, et que je vous l'affirme, on est tous ici, un peu sourds, et on va probablement tous, à la fin de notre vie, être équipés.
Pour que ce soit moins dangereux, il faut mettre combien ?
Pour que ça soit moins dangereux, il faut baisser le volume de vos lecteurs à moitié. C'est ce qu'il faudrait essayer, moi j'y suis jamais arrivé. Donc je peux pas vous dire c'est ce qu'il faut faire et c'est médicalement ce qu'il faut faire. Moi, mais peut-être parce que je suis déjà un peu sourd, je n'arrive pas à écouter un morceau de musique dans ce qu'on appelle la frange acceptable pour mon audition. Donc vous êtes ici à l'ampli. L'ampli donc est une salle amplifiée, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Est-ce que vous savez à quoi on reconnaît une salle amplifiée, d'abord ?
Avec des murs ?
Ouais, ça amplifie le son comment ?
Ça résonne.
Ça résonne, ouais. Une église, ça résonne et c'est pas pour autant amplifié ? Une salle amplifiée, donc, est tout simplement une salle qui est équipée pour amplifier le son. Vous avez donc une salle avec des enceintes. Voilà.
De quelle façon sont choisis les spectacles et les artistes qui passent à la source ?
Il y a à la source, en fait, une personne que vous ne verrez pas aujourd'hui, mais qui est le programmateur de la source, dont son boulot et son rôle, c'est d'aller voir des spectacles tout le long de l'année en France, etc., pour aller dénicher des artistes et les programmer à la source. Donc ça, c'est son boulot.
Quelle est la fréquentation à la source ? Combien de spectacles sont programmés par an ?
Le taux de fréquentation de la source en moyenne était l'année dernière de 64%, dont 52% de Fontenois, et c'était 62 concerts Je ne mets pas les différents événements type association. Si on met les associations, si on met les répètes, enfin les spectacles de l'école de musique et les concerts pro, on est globalement sur un peu moins de 80-85 dates par année.
Aidez-vous des associations ou des œuvres caritatives grâce au spectacle ? Si oui, et lesquels et comment ça marche?
Je vais essayer de répondre de façon honnête. Non, on n'aide pas les associations caritatives. Je pense par exemple au Secours Populaire ou au Resto du Cœur, etc. Ce ne sont pas des associations qu'on aide directement. Par contre, la municipalité a mis en place une tarification spéciale pour les usagers de ces structures. Sur l'ensemble des spectacles. C'est-à-dire que j'ai défendu auprès de mes élus le fait que j'étais contre la gratuité. Tout simplement parce que la gratuité ne participe pas à la dignité des gens, et pas plus qu'aux artistes. Par contre, au regard des populations précaires, qui sont souvent des usagers de ces structures-là, il y a une tarification pour l'ensemble de n'importe quel concert, une tarification de 3 euros par place, donc qui permet aux structures de pouvoir prendre en charge la place, donc de payer et d'offrir la place aux usagers vraiment les plus précaires, et de permettre aux gens de pouvoir au moins donner 1 euro symbolique ou 2 ou 3 euros pour pouvoir acheter leur place. Et au niveau de la source, moi en tout cas, j'ai à cœur de les accueillir comme n'importe quel usager, je dirais voire même plus. C'est-à-dire que c'est souvent des personnes qui n'ont pas la possibilité ou la chance d'aller voir souvent des spectacles ou qui ont l'habitude d'aller voir des concerts. Donc j'ai plutôt tendance à les bichonner. Donc je ne sais pas si c'est une aide au sens où tu l'entendais. Par contre, pour moi, ce n'est pas simplement de permettre à ces usagers-là de rencontrer des artistes. C'est avant tout, pour moi, de leur permettre, ou en tout cas de donner à voir que la culture ou les concerts, c'est quelque chose qui est fait pour tous et par tous.
Quel est le coût d'un spectacle et comment sont payés les artistes?
Alors, le coût des spectacles, c'est des grands tabous. Ça, c'est des grands tabous dans le milieu culturel. On ne dit pas le prix du spectacle. Tout simplement parce que les artistes avec leurs équipes ont souvent des liens un peu privilégiés, avec certains programmateurs. Il y a des programmateurs qu'on aime, d'autres pas. Donc ceux qu'on aime bien, on a tendance à dire, bon, allez, on s'arrange sur le prix ou sur le coût du spectacle. Ceux qu'on n'aime pas, on applique le prix du spectacle comme il devrait être vendu normalement. Donc en fait, pour répondre à ta question, je ne peux pas vraiment te dire sur quel tarif on peut partir. Vous êtes bien consciente aussi qu'entre un artiste et un groupe de musique, et puis, je ne sais pas, un philharmonique par exemple, les coûts sont différents. Vous avez beaucoup plus de musiciens. C'est-à-dire que le coût artistique d'un spectacle, c'est en fait, on paye les artistes, les musiciens. Moi, je te dirais honnêtement, pour répondre à ta question du coût artistique, puisque tu posais la question d'un concert, je peux simplement, moi, pour ne pas faire de langue de bois, à la source, il n'y a aucun concert qui dépasse 10 000 euros de cachet. C'est ça. Mais globalement, au niveau de la source, on est sur, suivant la forme, on est globalement sur des cachets entre 2 000 et 6 000 euros, suivant la forme, globalement, en comptant l'hébergement, la restauration, le déplacement et l'artistique. Voilà. Là, on va rentrer dans le bâtiment, dans une partie du bâtiment qui n'est pas du tout traitée au niveau acoustique. C'est-à-dire que si on n'avait pas imaginé et mis en place les infrastructures, les plaques, tous les systèmes de sonorisation que je vous ai parlé, sur l'ensemble du bâtiment, on s'entendrait comme on va s'entendre là.
Ah ouais, ça résonne un peu. Il fait froid, il fait bien ici. Ah, pardon.
Taisez-vous,
madame. Oh là là.
Donc vous êtes ici sur la zone qui permet aux artistes de décharger le matériel et en fait, comme c'est une zone de déchargement et de transit, on n'a pas du tout mis de système acoustique puisque vous l'avez compris, ça coûte énorme, ça coûte beaucoup de sous. Donc on a laissé tout ça brut. Comme vous pouvez le constater, il y a une résonance qui est juste insupportable, c'est-à-dire que même en chuchotant, ça résonne énormément. Voilà, je vous ai donné l'exemple typiquement d'une zone où il n'y a absolument aucun traitement acoustique.
Oh, c'est trop bien sur la scène.
Donc mes chers amis, sommes-nous dans une salle acoustique ou amplifiée? Non, on est bien dans une salle amplifiée. Comme vous pouvez le constater, en fait, on a des rideaux qui protègent les fameuses fréquences dont je vous parlais tout à l'heure. Derrière, des enceintes. Ici, vous avez les fameux retours et enfin, les fameux sub-basses dont je vous parlais tout à l'heure. Autre particularité de cette salle ? Ouais, elle est noire, il y a du bois. Belle remarque.
En fait, il n'y a que du bois ici.
Et ouais, vous êtes dans le deuxième étage de la source. Vous vous souvenez, au début, je vous ai parlé du premier étage tout en béton, on a visité. Et toute la deuxième partie qui est en bois. Et bien, effectivement, vous êtes clairement dans la zone qui est tout en bois. Voilà. Les fameux troncs que vous voyez là. Ouais, c'est pas de la déco. Hein. C'est vraiment pour soutenir la structure. Et en fait, vous avez dans le tronc. Le tronc a été percé et vous avez grosso modo une tige comme ça sur 3 mètres, en haut et en bas. Ça sert à quoi les plaques en bois là-haut ?
Pour le son.
Ouais. Ça, c'est pour pouvoir contrer certaines fréquences qui viennent de la selle. D'accord ? Et puis, les petites lamelles en bois que vous voyez là, c'est pareil, c'est pas de la décoration. Tout à l'heure, on a vu dans la salle en bas, dans le béton, que ça résonnait énormément. Pourquoi ici, j'arrive à vous parler correctement, sans qu'il y ait de l'écho, sans qu'il y ait le « ah, ah, ah » qu'on peut entendre dans une église ou un gymnase. C'est grâce à ces lamelles en bois que vous voyez là. C'est un système acoustique
le bois, ça aspire l'air.
Qui absorbe certaines fréquences. Non, le bois n'aspire pas quand il est coupé. Quand il est coupé, le bois il est inerte, il n'aspire plus l'air.
Ouais, c'est bon, ça va. La source, elle a un grand rayonnement ou enfin, à quelle échelle ?
Moi, mon travail, c'est de veiller à ce que, effectivement, la source soit connue en priorité auprès des Fontainois et Fontainoises, pas exclusivement, et surtout d'essayer au maximum de donner à voir ou de donner à faire comprendre aux gens que la source n'est pas qu'un lieu de concert, ça peut être aussi un lieu de vie. On peut y faire plein d'autres choses que simplement aller voir des concerts. On peut visiter l'établissement, on peut faire des cours de musique, on peut manger, on peut boire des coups à banc pour rencontrer des artistes, on peut faire des ateliers. Et c'est plus ça qui m'intéresse finalement, de faire rayonner cette philosophie-là que effectivement d'avoir de rayonnement international, parce qu'on n'a pas vocation effectivement à être une salle connue internationalement. Enfin, voilà, c'est pas la philosophie qu'on défend en tout cas.
Pouvez-vous nous présenter les différentes fonctions et métiers qu'il y a à la source ?
La source, comme beaucoup de structures culturelles, se divise à travers deux corps de métiers, un administratif et un technique. Dans l'administratif, vous pouvez y mettre le directeur de l'école de musique, le programmateur, le chargé de relations publiques, la responsable de com, et au niveau technique, le directeur technique, l'ingé son, l'ingé lumière, et ce qu'on appelle les backliners, voilà, ceux qui branchent et qui mettent les câbles. Voilà, globalement, les différents corps de métier à la source. J'ai oublié, les professeurs de musique, bien évidemment, et l'opérateur studio, pour le côté administratif. Et puis, évidemment, après, vous avez tous les gens qu'on ne voit pas, c'est-à-dire les électriciens de la ville, les personnes qui font le catering, la restauration, les artistes, les tourneurs, l'administrateur, etc. Donc, globalement, la source, c'est 13 personnes à temps plein. Non, le reste, que ce soit les professeurs ou les autres, sont souvent ce qu'on appelle des contrats vacataires. Ils sont embauchés à l'heure.
Et les intermittents.
Et voilà, et les techniciens, c'est des intermittents, ouais. Et les artistes aussi. Ouais.
Bonjour, moi je m'appelle Pascal Billot et je suis le directeur artistique du groupe. Je fais la composition et puis je dirige les répétitions pour que les spectacles soient chouettes.
Moi, je m'appelle Mourad Baytich et je suis percussionniste du collectif Mawel. Donc, je fais à la base des percussions orientales et puis un peu de tous les genres de percussions différentes.
Alors, le collectif Mawel, c'est un collectif qui a une grosse existence. Il existe depuis 20 ans. Et au départ, c'était un groupe de copains qui voulaient faire de la musique ensemble. C'est devenu une association, ensuite c'est devenu une coopérative, etc., etc. C'était d'abord constitué comme un groupe et puis après on s'est rendu compte qu'on avait, on avait envie de faire tout un tas de spectacles différents. À chaque fois, le groupe était différent, mais c'était quand même un peu les mêmes personnes à l'intérieur. Donc on a choisi, plutôt que de faire 5 groupes différents, nous constituer en collectif, c'est-à-dire c'est un ensemble d'artistes qui travaillent ensemble et qui fait plusieurs spectacles différents. Voilà ce que ça veut dire un collectif.
Comment a réagi votre entourage face à ce choix de métier ?
Quand j'ai dit à mes parents « je veux faire de la musique », au moment où, je passais le bac, en fait, ils m'ont dit « ah, de la musique, bon, d'accord, mais alors fais la fac, vu qu'il y a une fac de musique ». Et puis j'ai fait ça, ça m'a appris pas mal de choses. Et puis après, au bout d'un moment, la fac ras-le-bol, donc je suis allé sur quelque chose de plus technique.
Moi, pour ma part, c'est complètement différent. J'ai travaillé à partir de 17 ans, 18 ans à l'usine, en 3-8, pendant 10 ans de ma vie, en fait, où j'allais travailler en fait, la nuit et l'après-midi, je faisais de la musique et tout ça. Puis au bout d'un moment, j'en ai eu marre, je gagnais très très bien ma vie à l'usine, mes parents, ils étaient contents. Et quand je leur ai dit que je voulais devenir musicien, mon père, il a fait un peu la gueule, quoi, parce que bon, pour lui, voilà, musicien, c'est saltimbanque, c'est pas du tout un métier sérieux. Alors que j'ai jamais autant bossé que depuis que je suis musicien. Je bosse 10 fois plus que quand je bossais à l'usine. Après, je fais des choses qui m'intéressent, mais voilà. Et il a changé d'avis quand il m'a vu à M6 Grenoble à l'époque, à la chaîne de télé locale. Donc du coup, voilà quoi. C'est juste des a priori parce qu'au bout d'un moment, en fait, ils ont compris que c'était mon choix et que ça marchait très bien. Donc voilà, ça s'est assez bien passé, quoi.
Donc pour cette question-là, moi ça s'est pas très très bien passé en fait, un peu comme Pascal. Moi, donc j'ai fait de la musique plus jeune, étant tout petit en fait. Après j'ai fait mes études, le bac, et du coup je suis parti à la fac parce que je pouvais pas dire à mes parents qu'après le bac je voulais absolument faire de la musique. Donc j'ai fait une partie d'études supérieures jusqu'au moment où j'en ai eu marre. J'ai dit à mes parents justement que j'arrêtais tout pour faire de la musique. Donc bon, c'était un petit peu galère. Il aura fallu bien 10 ans pour qu'ils arrêtent de m'ennuyer avec ça, on va dire, pour qu'ils comprennent que maintenant, c'était vraiment ce que je voulais faire et que ça se passait pas trop mal, quoi. Voilà, mais bon, ça valait le coup quand même.
Moi, j'ai commencé la musique quand j'étais adolescente et j'étais bien décidée à faire que de la musique. Et mes parents, ils étaient plutôt cool, donc j'ai fait que de la musique quand j'étais jeune adulte. Puis après, en fait, c'était un peu compliqué de gagner ma vie tout simplement en faisant de la musique. Du coup, j'ai fait une école d'infirmière. Et en fait, là, actuellement, je suis infirmière de nuit. Et je fais de la musique tout le reste de mon temps, quasiment, voilà, le jour. Et non, ça sert à rien de dormir. Et du coup, voilà, pour le moment, c'est un équilibre qui est comme ça, et pour le moment, ça va bien.
Alors la question, c'était comment mes parents ont pris le fait que je sois artiste, en fait. En plus, moi, comme je fais de la vidéo, si vous venez au concert de ce soir, vous allez voir, il va y avoir des écrans ici installés, et puis des projections dessus de vidéos. Donc ça fait un spectacle, musique et vidéo. Et en fait, je crois que mes parents, ils n'ont toujours pas compris ce que je faisais exactement. Alors nous, dans notre famille, on n'a pas vraiment de musiciens. Et ma mère qui fait un peu des percus qui sont les mêmes que celles que Mourad utilise. Mais c'était plutôt une manière de pratiquer la musique dans des cérémonies ou dans la vie quotidienne, etc. Elle fait de la musique, mais elle ne fait pas de spectacle. Jamais. Elle va jouer de la musique dans un mariage, mais ce n'est pas un spectacle. Donc pour elle, c'est vraiment un univers qu'elle connaît pas trop, qu'elle comprend pas trop.
Et donc il en manque juste un, Sergio Zamparo, donc qui fait partie aussi du collectif des Barbarins Fourchus, qui lui a décidé vraiment très tôt de faire la musique. Et je crois que pour lui, ses parents étaient plutôt contents qu'il fasse de la musique parce qu'il avait vraiment trouvé quelque chose de chouette à faire. Et voilà.
Qu'est-ce que vous aimez dans ce métier et qu'est-ce que vous n'aimez pas ?
À un certain âge, on fait des choix. Et qu'après, ces choix-là, on les assume parce que c'est des choix qu'on a faits, tout simplement. Donc forcément, comme dans toute carrière, comme dans toute famille ou n'importe quoi, il y a des choses qui sont bien, des choses qui ne sont pas bien. C'est excellent de jouer devant des gens, de leur faire partager notre passion. Ça, c'est sûr, c'est super chouette. C'est vachement bien quand on a fini l'enregistrement d'un album et qu'on est content du travail accompli. Parfois, c'est difficile aussi.
on trouve pas la bonne approche, on n'est pas sur la bonne chose, on peut manquer de recul aussi, on peut se poser vachement de questions sur ce qu'on est en train de faire. Est-ce que c'est bien ou pas bien ce que je suis en train de faire, etc., etc. C'est très très intéressant. C'est vachement bien avec du recul, mais quand on est dedans, on n'est pas forcément très bien. J'aime, après avoir eu le recul nécessaire, pour me dire que finalement, c'était pas mal. En fait, un effort, sur le moment, il peut être très très pénible et très très valorisant à la fin ou très productif. Il y a aussi certains efforts qu'on a faits qui ont rimé à rien et qui nous ont amenés dans des impasses totales. On est un peu des chercheurs. Et quand on cherche, on ne trouve pas tout le temps.
Ce qu'on aime faire, effectivement, c'est être sur scène et tout ça, parce que c'est vraiment un métier génial. On voyage, là, on était en tournée au Maroc, on enregistre des albums, c'est un métier, franchement, comparé de l'usine, il n'y a pas photo, quoi. Par contre, il y a un principe qui revient tout le temps, c'est le principe de réalité. C'est-à-dire qu'il faut quand même aller chercher des concerts, bien se vendre, être fiable, assurer, arriver à l'heure. Tous ces principes-là, qui sont des fois très, très difficiles, parce que ça demande énormément d'organisation, en fait. Et donc du coup voilà, c'est un peu la partie qui est un peu plus difficile des fois, c'est de faire plein de compromis en fait pour pouvoir réussir à se retrouver des fois sur scène quoi.
Comment vivez-vous votre quotidien avec ce métier ?
Alors notre quotidien, il est partagé entre une partie pédagogique où on apprend ce qu'on sait aux autres, simplement. Des répétitions, donc ça c'est jouer ensemble, essayer de faire en sorte que des idées qu'on a eues puissent s'articuler entre nous. Des concerts bien sûr, des représentations, des spectacles. Et puis aussi toute une partie administrative parce que ça suffit pas en fait de juste jouer, faire de la belle musique et tout ça, ça suffit pas. Il faut aussi rentrer dans la logique, c'est ce que disait Mourad tout à l'heure, rentrer dans une logique administrative. Un spectacle, finalement, ça se vend à quelqu'un, donc il y a une facture qui doit être émise, il y a des gens qui travaillent, il faut faire des contrats, c'est énormément de travail, et c'est du travail très administratif et très rasant, en fait, qui est très, très éloigné du métier d'artiste, mais qu'il faut faire quand même. Et puis, également, c'est aussi chercher des spectacles, parce que les gens ne nous appellent pas comme ça en disant « Ah, bah super, Mawel, vous êtes super connu !» Et puis, donc, on vous veut en spectacle. Non, les gens ne nous connaissent pas forcément. Donc, en fait, il faut se présenter à eux. Et là, il y a toute une partie publicité, finalement, qu'il faut arriver à faire de manière un peu sympa pour que les gens se disent « Ah bah ouais, ce groupe, j'ai envie d'écouter ce qu'ils me proposent, parce qu'ils ne l'entendent pas. J'ai envie d'écouter ce qu'ils me proposent. » Et puis, une fois qu'ils ont écouté, dire « Ah bah oui, je veux ça dans l'endroit que je gère ou le festival que je gère. » Voilà. Donc en fait, c'est le métier d'artiste, c'est quelque chose de très vaste qui demande un savoir-faire technique, qui demande des savoir-faire humains aussi, parce que faire vivre plusieurs personnes en même temps, c'est pas forcément évident. On a des caractères différents, on peut se prendre la tête des fois, hein, ça arrive assez souvent. Donc voilà. Et puis aussi tout ce côté organisationnel. Évidemment, la récompense, c'est quand on arrive sur scène et qu'on fait notre concert, parce que c'est là où on finit les choses, et puis on les présente devant les gens. Et les gens, quand ils sont contents, pour nous, c'est une belle récompense.
Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui voudrait faire votre métier ?
Tant que ça vous plaît, vous continuez. C'est simple, en fait. Il y a quelque chose de spécial dans ce métier-là. En fait, il ne s'agit pas juste d'être laborieux. Je pourrais vous dire, travailler comme des malades et tout ça, ça ne suffira pas. En fait, en plus de travailler comme des dingues, il faut en plus être passionné, c'est-à-dire vraiment avoir envie de le faire pour que ça fonctionne. Ce n'est pas juste un nombre d'heures passées dessus qui suffira à vous faire avancer. C'est d'abord votre intérêt principal pour la chose qui va faire marcher ça. Et après, de toute façon, le reste va suivre. Si vous êtes très intéressé, vous allez passer des heures dessus. Comme par exemple quand on est passionné de jeux vidéo ou de sport ou de n'importe quoi, c'est exactement la même chose. Si on aime ça, ça marche. Si on se pose des questions sur si c'est vraiment ça qu'on aime, ça devient un loisir. Et du coup, peut-être que ce n'est pas la filière professionnelle la première chose à laquelle il faut penser.
Ouais. Moi, c'est, y a un avis bien tranché, en fait. Voilà, à un moment donné, c'est bien d'écouter les gens qu'il y a autour de soi, mais c'est aussi bien de faire comme on a envie de faire. Et ça, c'est aussi ce qui caractérise le parti pris, en fait, c'est ce qui caractérise ce métier. C'est-à-dire qu'il faut avoir envie de faire des choses et les faire comme on a envie de les faire et pas comme les autres ont envie qu'on les fasse. Voilà.
Comment êtes-vous arrivé à travailler à la source ?
Alors, on est arrivé à travailler à la source parce que le collectif, en fait, ça fait maintenant 14 ans, 15 ans qu'on est sur Fontaine, en fait. Et donc, du coup, ça fait 15 ans qu'on développe des projets sur l'agglomération. Quand la source a ouvert, Jeff, l'ancien programmateur de la source, l'ancien directeur, est venu nous voir. Et donc, du coup, il nous a proposé, en fait, de développer quelque chose ici, de travailler, en fait, comme artiste fontainois dans l'équipement fontainois. Donc, c'est pour ces raisons-là qu'on est venu travailler à la source. Et du coup, on a eu un super cadre de travail qui nous a permis de développer plein de spectacles, qui nous a permis de développer des super gros projets. On fait aussi venir des musiciens, beaucoup du Maghreb en fait, de musique traditionnelle arabe, et qu'on fait tourner ici en France. On a monté tout un label qui s'appelle Culture Solidaire. Donc, vu qu'on travaillait beaucoup sur Fontaine, Jeff nous a proposé d'avoir un cycle ici en fait, permanent. Et voilà.
Avez-vous quelque chose à ajouter ou un message à faire passer ?
Ben, faut aller voir la musique en live, quoi, parce que c'est quand même assez intéressant et tout ça. Voilà, c'est tout. Au revoir. Ouais. Merci en tout cas. We'll be right back.